je vous invite à vous lever pour deux chanteurs. Pour commencer notre culte, nous voulons rendre aujourd'hui à notre Dieu en ce beau jour d'été.
Thank you. Bienvenue à notre culte. Quelques fenêtres sont ouvertes, on sait que c'est plutôt du chaud qui rentre, mais on veut quand même un peu d'air. Sentez-vous libre, si vous avez besoin d'un verre d'eau, de vous lever et d'aller au bar. Prendre un verre d'eau, Cosimo ne sera pas loin pour vous aider. C'est un des dimanches sans école du dimanche. Bienvenue à tous, bienvenue aussi aux visiteurs. Il y en a beaucoup ces derniers dimanches. Nous sommes heureux d'accueillir les uns et les autres. Que le Seigneur nous permette de vivre un temps béni tous ensemble. Parmi les visiteurs, quand même, une famille qui nous vient de loin, qui arrive d'Iran, et qui vient s'installer à Mulhouse. Et nous sommes heureux d'accueillir Roussane et sa famille.
La route vers la demeure de l'Éternel. Du fond de la détresse, je t'appelle Éternel. Et Seigneur, écoute-moi, sois attentif à mes supplications. Ô Éternel, si tu retiens nos fautes, Seigneur, qui donc subsistera? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. Moi, je m'attends à l'Éternel. Oui, je m'attends à lui. De tout mon être, j'ai foi en sa parole. Je guette le Seigneur bien plus que les guetteurs attendent le matin. Oui, plus que les guetteurs attendent le matin. Ô Israël, place ta foi en l'Éternel, car c'est auprès de lui que l'on trouve l'amour. On trouve auprès de lui une parfaite délivrance. Et c'est lui qui délivrera Israël de tous ses péchés.
Merci pour la lecture du psaume 130. Le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. C'est lui qui délivre son peuple de tous ses péchés. C'est ce thème du pardon qui orientera le culte de ce matin. Un thème très important, un thème très concret, un thème récurrent. Et c'est le bénéfice, semaine après semaine, du pardon de Dieu. Un thème qui concerne notre relation avec Dieu, un thème, vous le savez, qui concerne nos relations aussi. Dans chaque cas, il y a un offensé et un offenseur. Et pour que le pardon soit complet, il faut que l'offenseur reconnaisse sa faute, que l'offenseur demande pardon, que l'offensé offre le pardon, donne le pardon. Et il n'y a jamais de problème du côté de Dieu. Pour nous, c'est plus compliqué. Des deux côtés, en tant qu'offenseur ou en tant qu'offensé, nous avons beaucoup de défis à relever.
Nous connaissons l'exemple de David qui reconnaît sa faute. Il prie ainsi : contre toi seul, j'ai péché. Voilà pourquoi tu es juste quand tu émets ta sentence et tu es irréprochable quand tu rends ton jugement. Contre toi seul j'ai péché. Voilà qui est surprenant, parce que David en effet a causé un tort profond à des personnes. Un adultère, un meurtre. Comment peut-il dire à Dieu « contre toi seul j'ai péché » ? C'est une forme de choc qui n'oublie pas les autres offensés, mais qui met l'accent sur le premier. Dans nos erreurs, dans nos fautes, lorsque nous faisons de mal, notre Dieu est le premier offensé. Quand nous péchons, nous manquons le but qu'il nous a fixé. Nous sommes à côté de pourquoi il nous a créés. Quand nous péchons, nous salissons son monde. Nous souillons le lieu où devrait régner sa sainteté. Même si nous faisons du tort à plusieurs personnes, notre Dieu est le premier offensé. Alors ça n'exclut pas des démarches vers les victimes humaines, comme reconnaître qu'on a mal agi, comme une demande de pardon ou une offre de réparation quand c'est possible. Mais en tant que chrétien, il est important de reconnaître que notre Dieu est le premier offensé. contre toi seul, j'ai péché.
C'est pourquoi tu es juste quand tu émets ta sentence, tu es irréprochable quand tu rends ton jugement. Mais David en appelle à la pitié de Dieu, à sa bonté, et demande le pardon. Aie pitié de moi, ô Dieu, toi qui es si bon, efface mes torts, tu es si compatissant, lave-moi de mon péché, purifie-moi de ma faute. David s'appuie sur l'amour de Dieu. Et dans le système des sacrifices de l'époque, il n'y avait effectivement pas de sacrifice prévu pour effacer la faute d'un meurtre ou d'un adultère. C'était la mort qui devait la sanctionner. D'une manière globale, nous apprenons par la lettre de Paul aux Romains, un texte que j'ai souvent lu, que tous les péchés de l'Ancien Testament étaient en fait en attente de vrai pardon, en attendant le sacrifice de Jésus-Christ. David en appelle non pas à un système sacrificiel, mais à la bonté de Dieu. Et Dieu a répondu à la prière de David, à son cri de repentance et à son appel au pardon. Et Dieu a envoyé son Fils, Jésus-Christ. Cette confiance en Dieu que David a exprimée annonçait le sacrifice de Jésus-Christ et le plein pardon que nous rappelons régulièrement en prenant la scène, ce repas qui rappelle le dernier repas de Jésus avec ses disciples, qui rappelait la sortie d'Égypte et la délivrance. Et nous allons le prendre maintenant en nous souvenant de celui qui nous offre parfaitement son pardon. Je vous invite à vous lever.
J'invite les personnes qui distribuent la scène aujourd'hui à s'avancer. Selon l'enseignement de Jésus, j'invite tous ceux qui reconnaissent en Jésus-Christ celui qui a été condamné à leur place à prendre le pain dans l'adoration et la reconnaissance parce qu'il a été brisé pour nous, à prendre la coupe dans l'adoration encore parce que son sang a coulé à la place du nôtre. Que ceux qui sont en recherche et ne peuvent pas s'identifier à ce symbole laissent tout simplement passer le pain et la coupe et la donne à leur voisin. Prenez, dit Jésus, c'est mon corps, il est donné pour vous.
De que l'amour éternel à mon cœur s'est fait connaître.
Oh. à prendre place. Je vous propose un temps de prière libre maintenant, où nous pouvons tous nous recueillir devant Dieu et quelques-uns dire à haute voix l'une ou l'autre expression de notre adoration et de nos prières. Prions. Le Seigneur, il est bon de nous arrêter ensemble devant toi, d'écouter ta parole, de nous souvenir de ton amour manifesté de façon extrême à la croix, et de prier ensemble, de te dire notre reconnaissance. Et nous le faisons maintenant. Amen. Le Seigneur, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ nous a laissé cette prière en réponse à la demande des disciples. Enseignez-nous à prier. Cette phrase nous a quelquefois laissé surpris. Comment dire à Dieu, pardonne-nous comme nous pardonnons? Bien évidemment, ce n'est pas nous l'exemple. Bien évidemment. Ce n'est pas non plus la condition du pardon, mais une correspondance solennelle entre le pardon de Dieu et le pardon que nous offrons. Si je ne pardonne pas, je montre par là que je n'ai pas compris le pardon que Dieu m'offre. Je ne peux pas comprendre le pardon que Dieu m'offre et ne pas être un apprenti du pardon. Matthieu 18 le dit très clairement, et un clip vidéo va nous le rappeler. Adaptation 2019.
Voilà la parole du serviteur impitoyable, réactualisé. Il nous a été pardonné, Dieu nous demande de pardonner à ceux qui sont autour de nous. Supportez-vous les uns les autres, nous dit Paul dans l'Épître aux Colossiens. Et si l'un de vous a quelque chose à reprocher l'un à l'autre, pardonnez-vous mutuellement. Le Seigneur vous a pardonné, vous aussi, pardonnez-vous de la même manière.
Nous sommes exhortés à vivre dans la grâce, à donner à l'autre le droit de changer, espérer que l'autre va changer. Et surtout dans le cadre de l'Église, il nous faut attendre que l'autre change.
Je suis persuadé, nous dit l'apôtre Paul, que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Christ.
Et cela est bien sûr vrai aussi pour l'autre. Pas seulement pour moi, aussi pour mon voisin qui m'agace peut-être. Dieu ferait cela pour des gens que j'aime bien, peut-être pour moi, et pas pour ce voisin. Si je ne vois pas de changement chez lui, je peux me poser la question, est-ce que je prie pour lui, pour que Dieu fasse son œuvre en lui? N'oublions pas de faire comme l'apôtre Paul, remercier Dieu pour l'œuvre qu'il accomplit chez les autres. Attention à ce qui peut être chez nous quelquefois une sensibilité exacerbée, qui voit des offenses là où il y a surtout de la maladresse, qui a des attentes irréalistes envers les autres, qui, il ne faut pas oublier, sont comme moi, des pécheurs rachetés en chemin sur la route de la sanctification. D'un autre côté, attention à un pardon superficiel, un pardon qui semble être par sa forme, mais qui ne l'est pas en vérité. C'est le risque que l'offensé, en pardonnant, enferme l'offenseur dans une nouvelle dette, celle de devoir toujours être reconnaissant pour le pardon accordé. On peut quelquefois accorder son pardon de haut. Autrement dit, ne manipulons pas l'offenseur en se plaçant comme le grand qui pardonne. Avec une démarche sèche, inauthentique et stérile. Non, ayons une démarche qui fait du bien à l'autre et à nous-mêmes.
vous invite à vous lever pour deux chants.
La bête à l'offenseur qui demande pardon, qui reconnaît sa faute.
Et la deuxième définition, pardon, pas aboutie, c'est ne pas me demander compte de sa faute, même s'il ne la reconnaît pas. Et pour ceux qui ont réfléchi à cette deuxième définition du pardon, donc ne plus demander sa faute, ces personnes ont énormément de choses à nous apprendre concernant l'authenticité de la démarche de l'offensé, donc de celui qui lui offrit le pardon, concernant la réalité de ce qu'il vit. Ben voilà. J'ai lu même un livre qui explique comment vivre physiquement dans notre corps la démarche du pardon. Alors je vais citer plusieurs fois Jacques Pujol. Jacques Pujol, il appelle lui cette démarche non aboutie du pardon le fait de remettre le dossier à Dieu. On veut pardonner, on est prêt à pardonner, mais l'offenseur ne reconnaît pas sa faute. Alors au lieu de pardonner à l'offenseur, on remet le dossier à Dieu. C'est Dieu qui va s'occuper de tout ça et nous en libérer. Pardonner peut prendre du temps. Certains d'entre nous ont participé à une journée de ressourcement à Colmar. Une des oratrices, Yolande Schwab, soulignait que le fait que le pardon prend du temps parce que nous sommes des êtres humains. Elle a utilisé l'expression « vivre le pardon » dans la réalité de l'incarnation. C'est-à-dire de tenir compte de ce que nous sommes, de comment nous fonctionnons en tant qu'êtres humains. Parce que le pardon n'est pas un acte magique. Pardonner peut prendre du temps aussi en fonction de la profondeur de la blessure. En fonction de ce à quoi elle nous renvoie concernant notre passé, la façon dont notre personnalité s'est construite. Vous connaissez l'histoire de Joseph pour la plupart d'entre vous dans la Bible. Mes frères ont été odieux envers lui. 38 ans après l'offense, mais surtout 17 ans après qu'il se soit réconcilié avec lui, il doutait encore de son pardon. Alors là, il s'agit du pardon donné, pas du pardon que l'offense est donné. Le pardon est une démarche qui peut se décomposer en plusieurs étapes. Certains auteurs voient 5 étapes dans la démarche du pardon. J'ai lu un auteur qui va même jusqu'à 12 étapes dans la démarche du pardon. Michel Sommet, dans ce livre, nous rend attentif au fait que l'offensé reste pécheur et que le péché risque de s'immiscer à chaque étape de l'offre du pardon. Mais cela ne doit pas nous bloquer. Cela ne doit pas être une excuse pour ne pas se mettre en marche. On va voir ensemble quelques étapes d'un pardon possible et authentique. En introduction, je dirais que tout d'abord, c'est important de reconnaître la difficulté de pardonner. C'est pas facile, c'est pas automatique. Et parfois, même si on désire, on n'y arrive pas, on n'a pas forcément les clés. Parfois, on ne le veut pas. Peut-être parce qu'on a peur de se perdre soi-même, si on pardonne. Une première étape importante, c'est d'accueillir une émotion, et cette émotion, c'est la colère. Alors, si vous voulez être rassuré sur le fait qu'accueillir une colère n'est pas en contradiction avec l'enseignement biblique, vous pouvez lire Jacques Pujol, ou Jacques Buchon, ou encore écouter Yolande Schwab sur Internet. La colère a mauvaise presse parce que son expression peut faire des dégâts. Il faut discerner deux choses, l'accueil et l'accueil de l'émotion et son expression, ce qu'on fait de cette émotion. Certains traduisent, notamment la Bible du Semeur, Éphésiens 4, verset 26, « Mettez-vous en colère, en impératif, mais ne péchez pas. » La grammaire grecque apparemment permet cette traduction sans l'imposer. La colère est d'abord protectrice. Elle fait partie de l'équipement que Dieu nous a donné pour réagir face à des situations déplaisantes. Elle nous permet de retrouver notre intégrité en tant que personne. Elle préserve qui nous sommes. La colère exprime aussi notre soif de justice. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés, nous dit Jésus. Ainsi, la colère permet de nommer le mal comme étant mal. Une colère qu'on essaye d'éviter, une colère non reconnue ou refoulée, surgira plus tard sous une autre forme et fera des dégâts. Reconnaître sa colère évite de retourner le mal contre soi. Pour conclure sur ce point, on peut dire qu'on permet à l'offensé de reconnaître qu'il est victime d'une injustice. Alors il y a beaucoup d'exemples dans la Bible, j'en ai choisi deux. David prie au psaume 7, met donc un terme aux méfaits des méchants. Dans Apocalypse 6, nous lisons, quand l'agneau ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été égorgés à cause de leur fidélité à la parole de Dieu et du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils s'écrièrent d'une voix forte, Maître saint et véritable, jusqu'à quand tarderas-tu à juger les habitants de la terre et à leur demander compte de notre mort ? Devant une offense qui nous est faite, reconnaître et accueillir sa colère est une première étape importante. Mais il ne faut pas en rester là. Il ne faut pas cultiver la colère pour elle-même, sans quoi elle se transformerait en amertume. Dans Hébreux 12, nous lisons « Veillez à ce qu'aucune racine d'amertume ne pousse et ne cause du trouble en empoisonnant plusieurs d'entre vous. » Ce qui caractérise l'amertume par rapport à la colère, c'est qu'elle s'installe dans le temps. Elle pousse, elle s'enracine, elle est nourrie. Elle est nourrie par celui qui s'empoisonne en la cultivant. Qu'aucune racine d'amertume ne pousse et ne cause du trouble en en empoisonnant plusieurs d'entre vous. Veillons à ne pas entretenir des pensées qui nous tirent vers le bas, qui nous font du mal. Mais alors, quel chemin suivre? Comment avancer? Alors, il y a encore d'autres étapes, dont deux étaient étrangères dans les deux versets qui viennent d'être lus.
Une autre attitude importante, reconnaître notre petitesse, notre vulnérabilité. L'image de la brebis, du mouton, souvent utilisée dans la Bible, illustre notre dépendance et me la rappelle sans cesse. Concernant le sujet que nous méditons ce matin, il est important de reconnaître que nous avons été blessés, ne pas, comme on dit, jouer les gros bras. Étant offensé, on a perdu quelque chose, soit sur le plan matériel, relationnel ou autre. Peut-être notre vision de nous-mêmes, de qui nous sommes. Nous pouvons être désorientés dans notre compréhension du monde et de ce que nous faisons ici. Étant offensé, nous avons été probablement déçus, malmenés, peut-être abîmés. Ne pas jouer les gros bras, ne pas dire même pas mal. Quand on a mal, se savoir vulnérable devant Dieu, être vrai. Quand on fait face à une blessure profonde, il peut être utile de se faire aider par une autre personne pour identifier nos manques, nos pertes, nos blessures. Psaume 6, Éternel, aie pitié de moi car je suis sans force. Ô Éternel, guéris-moi, car de tous mes membres, vois, je suis tremblant. Je suis en plein désarroi. Psaume 9. Éternel, aie pitié de moi. Vois la misère où m'ont réduit ceux qui n'ont rien leur haine.
Premièrement, accueillir sa colère. Deuxièmement, reconnaître sa vulnérabilité. Et maintenant, troisièmement, se souvenir que Dieu est grand. Remettre le dossier de l'offense à Dieu, selon une expression de Jacques Pujol. Ne pas en rester au statut de victime. La blessure ne me définit pas. J'ai été blessée, mais c'est quelque chose d'extérieur à moi qui a abîmé mon intégrité. Cette chose extérieure m'a touchée, mais elle ne me définit pas. Être victime n'est pas une identité. Mon identité est ailleurs. Mais ce livre devient en personne une nouvelle identité pour une nouvelle vie qui nous invite à nous ancrer dans la manière dont Dieu nous voit, dans l'identité que nous avons en tant que chrétiens. Je suis vulnérable, certes, mais être victime ne me définit pas. Si l'offenseur reconnaît sa faute, on pourra lui remettre sa dette, on en parlera un peu plus tard, Et si l'offenseur ne reconnaît pas sa faute, c'est maintenant le moment de remettre le dossier à Dieu. Le souverain, le juste juge, celui qui ne se trompe pas et qui maîtrise toutes choses.
L'Éternel est mon berger. Pour moi, tu dresses une table en face de mes ennemis.
C'était bien sûr le psaume 23. Dans le psaume 9, notre prière de David, il y a un moment où d'abord il entrevoit le moment où tous les comptes seront réglés lors du jugement. Et puis ensuite, il regarde à ce que cela implique aujourd'hui pour les brebis vulnérables.
L'Éternel siège pour toujours. Voici, il a dressé son trône pour exercer ses jugements. C'est lui qui gouverne le monde avec droiture et équité, qui prononce le jugement avec justice sur les peuples. Oui, l'Éternel est un refuge pour les pauvres, les opprimés, un lieu fort en temps de détresse. C'est pourquoi ceux qui te connaissent ont placé leur confiance en toi, car jamais tu ne délaisses, ô Éternel, celui qui se tourne vers toi.
Alors faisons attention de ne pas rajouter ce deuxième fardeau. par exemple en déconsidérant la première étape, celle de la légitimité de la colère. On va en venir maintenant à une définition du pardon, une ou plusieurs. Pardonner signifie renoncer à la juste revendication contre quelqu'un qui nous a fait du mal. Il y a une belle définition dans ce livre, c'est Linda Brière qui est citée par Michel Sommer. Michel Sommer, que plusieurs d'entre nous connaissent bien, hein, qui intervient par accès. Donc voilà cette définition. Ce qui s'est passé, donc c'est-à-dire l'offense, ne constitue plus une barrière qui empêche de chercher à rétablir la relation. L'offensé, en pardonnant, refuse que la relation soit basée sur l'acte offensant. Il refuse que l'offense soit le dernier mot sur l'offenseur. Et donc, une belle phrase qu'on peut trouver sur Internet qui découle de cette définition. Quand tu pardonnes, tu ne changes pas le passé, mais tu changes assurément l'avenir. Donc, pardonner signifie libérer l'offenseur de sa dette. Ne plus vouloir mettre la dette, l'offense, au centre de la relation, mais la mettre de côté pour vivre autre chose. Le bénéfice collatéral du fait d'offrir le pardon, c'est que cela permet de vivre une libération, une guérison émotionnelle pour la personne qui est offensée. Max Lucado, un auteur du livre entre autres pour enfants, mais pas seulement, a écrit « Le pardon, c'est déverrouiller la porte pour libérer quelqu'un et se rendre compte que vous étiez le prisonnier. » Voilà une libération émotionnelle, une guérison intérieure. Émile Nicole est un ancien professeur à l'Ancien Testament à la Fac de Meaux. Et il a un jour écrit un article sur l'histoire de Joseph et de ses frères. Il souligne que si le récit de la Genèse ne dit pas quand et comment Joseph a vécu une guérison intérieure, celle-ci a bien eu lieu. En effet, quand ses frères doutent encore de son pardon, on peut noter deux choses concernant Joseph. La première, c'est qu'il ne souffre plus de l'offense. Il n'est plus blessé par elle. Et la deuxième, c'est qu'il a su voir tout le positif de ce qu'il a vécu de négatif. Sans jamais dire que ses souffrances étaient une bonne chose, il a vu la main de Dieu, son action à la fois souveraine et pleine de bonté. Nous lisons dans Genèse 50, versets 15, 19 et 20. Maintenant que leur père était mort, les frères de Joseph se dirent : qui sait ? Peut-être Joseph se mettra à nous haïr et à nous rendre tout le mal que nous lui avons fait. Mais Joseph leur dit, n'ayez aucune crainte. Suis-je à la place de Dieu? Vous avez projeté de me faire du mal, mais par ce que vous avez fait, Dieu a projeté de faire du bien, en vue d'accomplir ce qui se réalise aujourd'hui. Pour sauver la vie à un peuple nombreux. Donc voilà, offrir le pardon et vivre la libération. Ensuite, une autre étape importante, la suite logique, c'est aimer. Aimer celui qui m'a fait l'offense. Si l'offenseur ne reconnaît pas sa faute, que faire? Alors, Jacques Pujol, avec raison, nous fait cette petite réflexion. Le véritable amour de celui qui nous a fait du mal, n'est-ce pas le mettre en face de ses responsabilités? Et ici, John Stott, attention à une paix à bon marché. Cependant, si la situation est bloquée, il y a d'autres choses à vivre avec l'offenseur que le rappel constant de l'offense. Vous connaissez ce texte de Jésus dans Matthieu 5. Voici ce que Jésus nous dit. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi, je vous dis, aimez vos ennemis. et priez pour ceux qui vous persécutent. Ainsi, vous vous comporterez vraiment comme des enfants de votre Père céleste. Car lui, il fait luire son soleil sur les méchants aussi bien que sur les bons, et il accorde sa pluie à ceux qui sont justes comme aux injustes. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, allez-vous prétendre à une récompense pour cela? Les collecteurs d'impôts eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas d'eux-mêmes? Votre Père céleste est parfait. Soyez donc parfait comme lui. Mon Dieu, viens-nous en aide. Donne-nous d'avancer sur ce chemin difficile, mais plein de promesses que tu places devant nous. Aime ses amis. Avant deux témoignages, je vais revenir sur ce que nous avons vu ce matin. Nous avons vu une définition du pardon. L'offensé, en pardonnant, ou bien en remettant le dossier à Dieu, refuse que la relation soit basée sur l'acte offensant. Il refuse que l'offense soit le dernier mot sur l'offenseur. Nous avons rapidement parcouru quelques étapes importantes à vivre. En introduction, reconnaître la difficulté de pardonner. Le pardon d'une blessure profonde n'est ni rapide, ni facile, ni magique. Reconnaître sa colère et sa blessure. Identifier et nommer les dégâts. Reconnaître sa vulnérabilité. Je peux être blessé. J'ai été blessé. Reconnaître la grandeur de Dieu, le juste juge. Il me fait ou me fera justice. Et par là, il me libère de mon statut de victime. Être victime n'est pas mon identité. Si mon offenseur reconnaît sa faute, lui pardonner. Dans tous les cas, aimer. S'il y a une chose que je vous propose de retenir de ce matin, c'est qu'un chemin vers un pardon authentique est possible. Ce chemin d'un pardon réel et profond peut conduire à des choses qui semblent impossibles à première vue. Corinne Tellemont est une chrétienne hollandaise qui a été emprisonnée dans un camp de concentration nazi parce qu'elle et sa famille avaient hébergé des juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Après la guerre, elle a parcouru le monde entier pour annoncer l'évangile. Et voici ce qu'elle raconte sur une soirée après une soirée d'évangélisation.
C'est dans une église de Munich que je l'ai aperçue. Chauve, corpulent, vêtu d'un pardessus gris, les doigts agrippant les bords d'un feutre marron. Les gens sortaient à la file de la salle du sous-sol où je venais de parler, avançant entre les rangées de chaises pour atteindre la porte du fond. C'était en 1947 et j'étais venue de Hollande apporter le message du pardon de Dieu à cette Allemagne humiliée par la défaite. Je l'aperçus se frayant un chemin à contre-courant vers l'avant de la salle. D'abord, je ne vis que le pardessus gris et le feutre marron. Mais l'instant d'après, je vis l'uniforme bleu et la casquette avec tête de mort et tibia. Puis tout me revint en un clin d'œil. L'immense salle, la lumière crue des plafonniers, la pile de vêtements et de souliers au centre de la pièce, la honte de passer nu devant cet homme. C'était à Ravensbrück, et l'homme qui s'approchait de moi était un des gardiens de ce camp, un des gardiens les plus cruels. À présent, il se tenait devant moi, la main tendue. Mademoiselle, vous nous avez donné un bon message, qu'il est bon de savoir, comme vous venez de nous le dire, que nos péchés sont au fond de la mer. Et moi, qui avais parlé du pardon avec tant d'aisance, j'étais là, fouillant dans mon sac, dans mon portefeuille, au lieu de lui serrer la main. Il ne pouvait pas se souvenir de moi, évidemment. Je ne sais qu'une des tenues parmi les milliers d'autres. Mais moi, je me souvenais de lui et de la cravache qui pendait à son ceinturon. J'avais un de mes tortionnaires en face de moi et mon sang se glaça. Dans votre causerie, il vous avait fait allusion à Ravensbrück, disait-il. J'étais un des gardiens de ce camp. Non, il ne m'avait pas reconnu. Depuis, poursuivait-il, je suis devenu chrétien. Je sais qu'il m'a pardonné les atrocités que j'ai commises. Mais je voudrais l'entendre de votre bouche, mademoiselle. Et il me tendit à nouveau la main. Me pardonnez-vous? Et j'étais là. Moi qui avais su si souvent implorer le pardon pour mes fautes, et j'étais incapable de le faire. Bercy, donc c'est sa sœur, était morte là-bas. Pouvait-il effacer sa lente agonie simplement en me demandant pardon? Ce n'était que depuis quelques secondes qu'il se tenait devant moi, la main tendue. Mais elle me paraissait des heures, tellement la lutte était âpre pour faire le geste le plus pénible de ma vie. Mais le pardon n'est pas l'affaire du sentiment, je le savais bien. C'est un acte volontaire et la volonté fonctionne quelle que soit la température du cœur. Jésus, viens à mon aide, priai-je en silence. Je peux faire le geste, mais à toi de me donner l'amour. C'est ainsi que, comme un automate, je serrai la main tendue vers moi. Alors se produisit une chose incroyable. Un courant me passa de l'épaule au bras et du bras dans nos mains jointes. Il réchauffa tout mon être et me fit venir les larmes aux yeux. Frère, je vous pardonne, m'écriai-je. Je vous pardonne de tout mon cœur. Longtemps, nos mains restèrent nouées, celles de l'ancien gardien et celles de l'ancienne détenue. Je n'ai jamais connu l'amour de Dieu d'une façon si intense que ce jour-là. Mais je savais que ce n'était pas mon amour à moi. J'avais essayé et j'avais échoué. Mais ce que je n'ai pas pu faire, le Saint-Esprit l'a fait en moi. Comme le dit Romains 5:5, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné.
Merci. C'est un témoignage qui me bouleverse toujours. Ce que Dieu peut faire est extraordinaire. Un deuxième témoignage. Jean-Claude est un ancien enfant parrainé au Rwanda. Il témoigne.
Compassion, le programme de parrainage, m'a appris l'amour. L'amour est un mot qui est enseigné tout le temps au cours du programme de parrainage. Aimez-vous les uns les autres, comme Dieu aime tout le monde et a décidé de donner son propre fils. Le génocide du peuple Tutsi s'est produit en 1994 au Rwanda. C'était terrible. Les Hutus n'étaient pas des personnes venant d'autres pays ou de contrées lointaines. Ils étaient nos voisins, ils étaient nos amis. Ma famille était Tutsi et au cours du génocide, j'ai vu mon père se faire tuer d'une façon très cruelle. J'avais 11 ans. Un groupe de 12 personnes est venu chez moi et je suis allé me cacher derrière la barrière. J'ai tout vu. Ma mère n'a pas été tuée, elle a été battue. Elle est traumatisée depuis ce jour. Maintenant, elle vit avec un handicap mental à cause de tout ce qu'elle a vu. Depuis le génocide jusqu'à aujourd'hui, elle prend des médicaments tous les jours. Après le génocide, en 1996, le programme de parrainage a réouvert officiellement et les enfants qui ont survécu sont revenus. C'était difficile pour les équipiers de compassion, car beaucoup d'enfants avaient été tués. Ces travailleurs avaient un très gros travail à faire. Tout d'abord, ils devaient nous réconforter, nous encourager, mais c'était très difficile. Nous vivions toujours avec des personnes qui avaient tué nos familles. Avant le génocide, nous ne pensions pas qui était Tutsi où était et qui était Hutu. Mais quand nous sommes revenus au centre d'accueil, il y avait des enfants Hutu et nous nous sommes dit « Oh, peut-être que le père de celui-là a tué nos parents. » Mais le personnel du centre de parrainage a fait du très bon travail en nous donnant à nouveau de l'espoir et en nous apprenant le pardon. Grâce au parrainage, je suis qui je suis aujourd'hui. Grâce à l'éducation que j'ai pu avoir, j'ai grandi avec de l'espoir et j'ai eu pour objectif de sortir ma famille de la pauvreté. Quand j'étais à l'école, j'étudiais très dur et Dieu m'a aidé. J'ai obtenu mon baccalauréat avec des notes élevées et je suis allé dans une très bonne université pour étudier le droit. Quand j'ai été diplômé, je suis devenu avocat. Maintenant, je suis conseiller juridique pour l'association des anciens élèves de compassion du Rwanda. C'est ma manière de donner en retour. Finalement, j'ai pardonné à ceux qui ont tué ma famille. Après 2004, j'ai créé une organisation appelée Best Family Rwanda pour les enfants. La plupart des enfants aidés sont Hutus et viennent de familles qui ont commis le génocide. Si je ne pouvais pas pardonner, j'aurais dit « Non, je n'aiderai que les Tutsis, seulement les survivants du génocide. » Le père d'un des enfants soutenus par mon organisation faisait partie du groupe qui a tué mon père. Ils étaient voisins. Après le génocide, il a été emprisonné pour son crime. Alors que je sélectionnais les enfants à aider, j'ai dit « Amenez-moi cet enfant. » Il n'a pas de père. Voilà ce qu'est le pardon. Quand Jésus était sur la croix, il aurait pu dire « Tu es père !» Mais à la place, il a dit « Père, pardonne-le, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Voilà ce qu'est le pardon. J'ai un enfant. Excusez-moi. J'aime l'enfant du meurtrier de mon père. Il a été pris en charge depuis le lycée et maintenant il va à l'université.
Merci. Merci beaucoup. Voilà deux témoignages très forts. Ce que j'aimerais qu'on retienne, c'est que Corrie Ten Boom et Jean-Claude, dont on vient de voir leur photo, ne sont pas des extraterrestres. Ils sont des êtres humains comme nous. Pardonner, ils ont appris à pardonner. Ils nous montrent qu'un pardon authentique est possible, quelle que soit l'offense. Je pense très fort que ce qui conditionne le pardon, ce n'est pas la nature de l'offense, mais c'est le chemin emprunté pour arriver au pardon. Je propose d'écouter un chant.
Je il me rend des forces neuves et, pour l'honneur de son nom, il me mène pas à pas sur le droit chemin. Si je devais traverser la vallée où règnent les ténèbres de la mort, je ne craindrais aucun mal, car tu es auprès de moi. Ta houlette me conduit et ton bâton me protège. Pour moi, tu restes une table aux yeux de mes ennemis, tu oins le parfum à ma tête, tu fais déborder ma coupe. Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour m'accompagneront, et je pourrai retourner au temple de l'Éternel tant que je vivrai.
Suite à tout ce qui a été dit, entendu, réfléchi ce matin, je propose qu'on prenne la décision de suivre le bon berger.
Par ce thème tellement important du pardon, il y aura des livres, il y a toujours des livres, à la sortie du culte, mais là il y aura des livres en relation directe avec le thème. Vous pouvez les regarder, vous pouvez en reparler à Adeline qui en a lu beaucoup, et dans les jours qui viennent encore nous en parler et venir à la bibliothèque. Que Dieu nous bénisse. On peut acheter aussi.
Il y a des livres qu'on peut acheter au centre chrétien d'âme, et puis il y a des livres que l'on jette ici, qui viennent de la bibliothèque et qui sont en prêt. Je vous invite à vous lever pour un dernier chant. la rendra parfaite pour le jour du Christ. Bonne journée, bonne semaine.